France Musique.
Les grands entretiens. Stéphane Grant. France Musique.
Je m'appelle Laurent Naouri. Je suis né le 23 mai 1964 à Paris. Je suis baryton. Et c'est donc le troisième volet de ces grands entretiens avec Laurent Naouri. Le baryton français nous racontait hier son stage au CNIPAL autour du Così fan tutte et de Mozart et puis les deux années passées à Londres à la Guildhall School.
L'avantage que j'ai eu de ce stage que j'ai fait au CNIPAL autour de Così fan tutte, nous sommes donc en premier semestre 90 à l'époque, avant que je parte à la Guildhall, c'est que Nathalie, que je venais de rencontrer,
Nathalie Tessé.
Voilà, ma femme avait, suite à sa bonne place aux Voix Nouvelles, je crois qu'elle était deuxième ou quelque chose comme ça, avait rencontré un agent, Thérèse Seidel. Et alors, Nathalie m'avait dit, oh ben écoute, je pourrais inviter, si vous faites un petit truc, là, il y avait le Salon Musica ou je sais plus quoi à Paris, le CNIPAL avait un petit stand où on faisait des scénettes, quoi, je pense. Et elle me dit, j'ai invité Thérèse, voilà. Donc on était en 90 et Thérèse vient écouter. Puis ça lui plaît, elle me dit, ben oui, mais on va pouvoir vous faire auditionner, trouver des trucs. Et ça a été quand même, pour moi, extrêmement confortable. C'est-à-dire que je rentrais à Guildhall pour 2 ans, mais avec un agent qui me faisait passer des auditions, ce qui faisait que quand j'étais en vacances, j'avais du travail. Et donc, non seulement j'avais la bourse, vous savez, c'était mais enfin, je commençais à gagner ma vie. Et finalement, à partir du printemps 90, j'étais autonome, grâce à ça. Ce qui est quand même une chance insensée, quand j'y pense. Et... printemps 91, elle me fait auditionner pour Pierre Jourdan, qui dirigeait le Théâtre français de la musique, dans lequel Nathalie avait aussi fait ses débuts, même si elle n'aime pas que je lui rappelle, mais oui. C'est très très drôle. Parce que moi, je me souviens de ses airs. J'ai chanté sa petite gloriole, là, Gloire à l'éternel. Donc, il dirigeait le Théâtre français de la musique et qui venait de pouvoir avoir l'occasion d'ouvrir dans un lieu fixe, qui était le Théâtre impérial de Compiègne, qui était vraiment son grand œuvre, la restauration de ce théâtre. Et en 91, j'auditionne, et j'auditionne, je me souviens, avec Ralph, la jolie fille de Perth, parce que comme j'avais pas d'aigus, c'était bien pour chanter. Et donc, il me propose ce truc insensé, quoi, de faire Christophe Colomb, Darius Milhaud. Je reçois la partition. Je me souviens que mon camarade de chambrée à l'époque, avec qui je partageais l'appartement à Londres, regarde la partition lui aussi, il me dit c'est un film de vacances. Ça veut dire quoi un film de vacances? Bah ouais, c'est toutes les pages. Là, Christophe Colomb dans son église, Christophe Colomb à la maison, Christophe Colomb machin, etc. C'est tout le temps, partout, tout le temps, partout. Ouais, c'est un peu. Et puis bon, c'est un truc. Au bout d'un moment, on va pas dire non, quoi. Je veux dire, j'étais un peu risque-tout, certainement. Et il y avait aussi un truc très sympa, c'est que c'était l'orchestre de la Fondation Gulbenkian qui jouait. Et voilà que je me retrouve. Envoyé pour une semaine en mars 92, donc avant que ça commence, ça a commencé en septembre 92, une semaine à Lisbonne, moi tout seul, pour faire des lectures de l'opéra avec Michel Sierczewski, le chef. Mon Dieu, je savais pas si j'étais à la hauteur, j'en savais rien d'ailleurs, mais bon, c'était une expérience quand même, voilà, d'avoir cet âge-là, puis se retrouver là-dedans. Après ça, je pense que j'étais certainement pas encore au niveau vocal pour lui rendre pleinement justice à cet opéra, mais ça s'est bien passé. C'est vrai que ça m'a déjà un peu fait connaître. Voilà, je me souviens d'une critique fort aimable de Jacques Doucelin à cette époque-là. Mais j'avais déjà, grâce à mon agent, justement, déjà des petits contrats qui commençaient la saison. En fait, après, j'ai jamais eu à vraiment à trop me battre pour avoir du travail. Ça s'est enchaîné de façon assez naturelle, avec donc pas mal de baroque, surtout à Paris. En fait, j'ai été connu de la presse en tant que chanteur baroque parce que c'était ce que je faisais à Paris. Mais sinon, c'est très difficile de dire que j'ai orienté ma carrière d'une façon ou d'une autre. Elle s'est un peu... C'est un peu fait presque malgré moi et dans des tas de directions différentes, ce qui n'est pas pour me déplaire d'ailleurs. C'est même l'avantage de mon type de voix. Pendant ces deux années-là, il se trouve que Nathalie avait rencontré Jean-Pierre Blivet et j'ai commencé à fréquenter Jean-Pierre Blivet à ce moment-là, vers la deuxième année de... Et je dirais que le plus de choses importantes que j'ai apprises dans le chant, c'est quand même avec lui que je les ai apprises.
C'était le prof qui a décidé vraiment que vous seriez chanteur ? Ou vous aviez encore des doutes ?
Non, je l'aurais été.
Laurent Henry.
Je l'aurais été, mais quand j'ai commencé à travailler sur le marché, si vous voulez, j'aurais été idéalement... je pense, le bon chanteur baroque que j'ai été, si vous voulez. C'est-à-dire que, pourquoi j'ai commencé dans le baroque, c'est facile, parce qu'il fallait avoir du grave, parce que les tessitures de baryton descendent souvent dans des endroits un peu bizarres, que moi, ça a toujours porté, et qu'en même temps, ça monte pas trop haut. Et donc, c'était parfait, j'aurais pu continuer très bien là-dedans, en sentant que c'était pas complètement tout ce que j'aurais pu faire, et en... Bon, disons que ce qui a... débloquer ma voix vers la tessiture complète de ma voix, c'est ma rencontre avec Jean-Pierre, ça c'est sûr.
Mais de quelle façon ça se concrétise? De quelle façon dans des cours, en fait, dans le cours avec lui?
Ah bien sûr, c'est des cours, c'est des années. On a beau parler de choses très réelles, hein, de larynx, de machin, de cordes vocales, d'aryténoïdes, de tout ce que vous voulez, tout le monde peut parler de ça, mais on les voit pas. Hein. On ne parle que en fait de choses qu'on ne voit pas, qu'on doit imaginer. Quand vous êtes pianiste, vous voyez l'instrument. Quand vous voyez un ténor qui n'a pas d'une sous une voix qui ressemble à la vôtre, faire un geste que vous pressentez bon, il faut savoir qu'est-ce qui est dans ce geste que vous voulez reprendre. Quand il vous explique quelque chose, quelle est l'image qui va vous parler? Est-ce que ça va vous parler? Est-ce que ça va être bon pour vous? Et je dirais même, dans toute transmission, il y a une part de l'information qui se perd et une part de l'information que vous créez vous-même. Et je pense que c'est là que vous devenez le musicien que vous êtes. C'est presque ça, un enseignement réussi.
Ça vous a plu, Laurent Naouri, ces premiers pas dans le répertoire baroque, vous qui aviez,
vous étiez
barbé considérablement quelques années
alors,
avant
ouais, ou ouais, alors de ça, l'Opéra ça, de Paris. C'est drôle. Écoutez,
mais quand là, quand même, les grands débuts, c'est au
ce
fond
dans le répertoire baroque. Ce qui est très très drôle, c'est que tout ce que je me souviens de Dardanus de 1980 à l'Opéra de Paris, c'est de ces dalles qui brillaient sur le sol. En vrai, je revois des photos, si c'est ça, moi, c'est le souvenir que j'en ai. Je suis, oh, c'est bien nettoyé à l'Opéra. Et sinon. Peut-être j'étais pas bien préparé, peut-être aussi on ne jouait pas de façon... Quand même, je veux dire, Marc, il a apporté un rock'n'roll là-dedans, Marc Minkowski.
C'est avec lui que vous avez fait vos grands débuts,
oui.
Ce répertoire.
Et c'est lui à qui je dois ma découverte de Rameau. Je ne peux pas croire que j'étais suffisamment stupide quand j'avais 15 ans pour que si, quand j'avais 15 ans, j'avais entendu le trio des parcs, par exemple, comme c'était dirigé quand on le faisait dans l'enregistrement de Versailles, enfin de Hippolyte ici. Je ne peux pas croire que j'aurais été suffisamment stupide pour ne pas me dire wow, c'est monstrueux ce truc-là. Je crois qu'il y a un côté, il y avait un côté quand même, encore même en 1980, très sage dans la façon dont on jouait Rameau. Joli. Peut-être encore trop, à mon goût, et qui fait que là où il y a un grand génie, mes oreilles peu exercées n'y voyaient qu'un certain académisme, ce qui est tout le contraire de Rameau. La première rencontre avec Marc a eu lieu en 92, dans une salle d'audition à Bastille. J'ai auditionné, je crois avec Hippolyte Arici d'ailleurs, avec Puissant Maître des Cieux. Et la première chose qu'on a fait ensemble, en fait, ça a été la résurrection de Handel. Et je me souviens, je découvrais ça, j'étais très enthousiaste, je ne connaissais pas du tout, et à ce jour... Je pense que mon Handel préféré sera toujours le Handel qui avait 20 ans et qui était complètement fou dingue à Rome, quoi. Je veux dire, je peux avoir parfois quelques émotions avec des opéras plus tardifs, mais enfin Handel. Moi j'imagine cet adolescent vibrillonnant qui a passé toute son enfance dans un pays protestant où il faisait froid et où il pleuvait, et arrivé à Rome, et exactement comme n'importe qui d'entre nous arrive à Rome, voilà, le soleil, les ragazzi, c'est qu'est-ce que j'en peux, et qui veut montrer tout ce qu'il sait faire, quoi. C'était vraiment, j'étais un petit peu comme Handel quand il est arrivé à Rome, quoi. C'était, et déjà quand j'ai reçu la partition de la résurrection, puisque je connaissais rien, je suis arrivé vraiment... Et je me suis dit, je vais faire mes da capo. Puis je me suis écrit des da capo. Hein. Je faisais attention à pas doubler les quintes, à pas doubler les octaves. Je suis sûr qu'il doit y avoir plein de fautes. Mais enfin, en tout cas, les da capo de la résurrection, c'est bip. Je pense d'ailleurs que Marc était assez sympa pour me les laisser faire comme ça, un petit peu fou. Parce que je pense qu'il doit y avoir encore pas mal de trucs qui sont un petit peu fort du style. Peut-être qu'Emmanuel aurait été un petit peu... Amélie m'aurait été un petit peu plus dirigiste là-dessus. Mais j'ai un souvenir de ses concerts... Avec Jean-Paul Fouché-Court, dont je faisais pratiquement la connaissance, Jennifer Smith, Annick Massis, qui était un ange superlatif. Voilà, c'était... Et moi, qu'on me laissait chanter des trucs complètement fous, d'aller là-haut, en bas, faire l'imbécile, enfin, c'était... Il y avait un espèce de vertige comme ça, qui était tout à fait enthousiasmant.
Quand Dieu peut, quand Dieu peut. Permanere, cadere, non perdere in forza di ardire, non perdere in forza di ardire. Caddi, caddi, caddi e permanere, cadere, nel cadere,
fatale a dire no, 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 per lei, forza di ardire, nel carere, non per lei, forza di ardire.
Stéphane Grant, Les Grands Entretiens, France Musique.
La rencontre avec Marc Minkowski, Laurent Naouri, elle vous a mené évidemment dans le répertoire baroque, mais dans d'autres aussi territoires musicaux, je pense à Gluck et Offenbach.
Gluck. Gluck, j'ai passé assez rapidement sur Gluck. D'abord parce que, et pourtant Dieu sait que Marc le fait très très bien, j'ai pas une passion énorme pour ce compositeur.
Et avec quels interprètes avec vous, hein, parce que je vous entendais citer quelques-uns d'entre eux tout à l'heure.
On avait Mireille, on avait Mireille Delinche, on avait Simon Kinley-Side, on avait Yann Beuron, on avait... Mais il y a eu surtout cet ovni dont je pense nous ne cesserons jamais de déplorer le départ trop précoce, qui était Alexia, cousin. Si j'associe Marc et Gluck, toujours ce qui va me revenir, c'était Iphigénie en Tauride, que nous tournions donc en concert avec Mireille Delinche dans le rôle d'Iphigénie, Simon Kinley-Side, Oreste, Pilade, Yann Beuron, moi qui toassais, enfin voilà, et les musiciens du Louvre qui expérimentaient donc cette couleur très particulière du diapason à 400, il y avait des travaux instrumentaux enfin, sur les clarinettes, enfin des choses vraiment, des couleurs magnifiques, plein de choses très enthousiasmantes. Et pourtant, l'événement de cette soirée, de ces soirées, à chaque fois, je l'attendais comme ça, à chaque fois, c'était l'avant-dernière page de l'opéra, et c'était Dodo Fa arrêté de Alexia Cousin, qui était la déesse ex machina. Donc, si je me souviens bien, c'est qui est-ce qui descend du ciel à ce moment-là ? C'est Diane, je crois, hein, je ne sais plus. Pardon pour mon inculture. Et donc, il y avait juste une seule page, un récitatif. Au moment où tout le monde va se massacrer, et que c'est ce qui fait que ça se termine bien, arrêtez, écoutez mes décrets éternels. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette voix qui faisait que, même pas dans le suraigu, juste arrêtez, Dodo Fa, vous sentiez la salle se figer et effectivement arrêter.
Je fais une petite incise parce que le nom d'Alexia Cousin, les plus jeunes auditeurs qui nous écoutent, ça leur dit forcément rien. Elle a fait une carrière absolument météorique, avec des grands rôles, avec des Traviata, avec des Manon.
Avec moi, Mélisande et Tatiana.
Et Tatiana. Et puis un jour, mais vraiment du jour au lendemain, elle a décidé d'arrêter sa carrière et on n'a plus jamais entendu parler d'elle depuis.
Voilà, je ne sais pas si elle écoutera ça, mais je l'aime toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me souviens toujours de... On n'a jamais eu ce choc-là, Nathalie et moi. On était, je me souviens de la première fois qu'on l'a entendu au concours Voix Nouvelle, à la finale. C'est pas de dire qu'elle l'a gagné, c'était ridicule qu'elle soit dans ce concours tellement à côté. Bon, il y avait des jolis chanteurs, mais enfin bon, voilà, elle était là, quoi. Elle avait 18 ans à peine et elle chantait Hernani Involiam, mais comme j'ai rarement entendu chanter, je me souviens, j'étais à côté de Nathalie, je dis ça. Je ne sais pas si on l'entendra encore. Non, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et fréquenter et travailler avec. Et donc voilà, Gluck, moi je m'en remets à cet arrêter, écouter mes décrets éternels qui restait quelque chose comme ça pour moi de très marquant. Qui concerne Offenbach, une autre aventure. Là encore, je dois revenir au fait que j'étais donc un chanteur qui a fait un peu chant contraint et forcé sans rien connaître au répertoire. Autrement dit, la première fois que j'entends parler de Jupiter dans Orphée aux Enfers, c'est parce que Marc me dit « tu veux pas faire Jupiter ?»« Jupiter, Saturne, Poly... » ce que tu veux. J'avais aucune idée de ce que c'était que les opérettes d'Offenbach. Même, j'en avais une idée, a priori, plutôt ringarde, en fait. Voilà. Très franchement, ignorant, en fait. Donc, c'est peu dire que non seulement c'était ma rencontre avec Offenbach, mais c'était ma rencontre avec Laurent Pelly. Voilà 20 ans. Et ça a commencé donc à Genève, puisque Orphée aux Enfers a d'abord été créé à Genève sans Nathalie. C'était Annick Massis qui le faisait à l'époque. Et voilà, bon. Qu'est-ce que vous voulez, vous baignez dans cette folie, dans cette évidence musicale, dans cette énergie, dans ce sens de l'humour où j'entends quand même très caché mon côté ashkénaze qui résonne, sens de la parodie. Voilà, ça je découvrais complètement, je découvrais sur le champ et puis après il y a eu le plaisir de le faire avec Nathalie. Alors qu'elle était enceinte de notre fille. Enfin bref, c'est pour vous dire que tout ça, c'est un peu conte de fées, ces histoires-là.
Qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que vous attendiez, mais notamment au début, à cette époque-là, Laurent Naouri, d'un chef d'orchestre? On évoque beaucoup Marc Minkowski, vous avez cité John Elliott Gardiner, vous avez, dans le répertoire baroque, travaillé aussi beaucoup avec William Christie.
C'est tellement varié. C'est tellement varié. Il n'y a pas de théorie sur un chef d'orchestre, je ne crois pas. Il n'y a pas de modèle de chef d'orchestre. Marc, il y a cette énergie, c'est-à-dire que je me souviens toujours d'un. Je lui dis, il est complètement cinglé, ce mec, d'un concert au Concertgebouw. Je crois que c'était un Gluck, justement. Et puis c'est une scène de vengeance, enfin un cœur de comme ça de vengeance. Il tenait sa baguette comme on tient une baguette, c'est-à-dire du bout du doigt, voilà. Et puis il s'agitait pour montrer, allez, plus violent. Puis à un moment, pour montrer qu'il faut vraiment que ce soit plus violent, il retourne sa baguette comme si c'était un poignard et commence à diriger comme ça. Ce mec est cinglé. Mais en même temps, c'était ça, cette complicité, ce truc, enfin moi qui m'enthousiasmait énormément. Au même moment, je redécouvrais aussi d'autres parts et une autre façon de faire Rameau avec William Christie. Et chez William Christie, je dirais, c'est un côté d'ensemble, le son d'ensemble. Si vous voulez, moi, j'ai jamais perçu William Christie aussi peut-être heureux, et j'étais dans le public, que quand il dirigeait du clavecin le retour d'Ulysse à Aix-en-Provence, où il était musique, quoi. Il est tout le temps. C'est évidemment un musicien énorme. Mais je pense que le fond, pour moi, ma perception du fond du bonhomme, c'est essayer de créer une patte sonore cohérente. Et quelque part, je l'ai jamais autant goûté que quand il était là, donner toutes ses intentions, voyez, d'un bout de regard sur des musiciens complices comme ça. Enfin, moi, j'ai un des souvenirs de cet Ulysse, c'est de la mise en scène d'Adrian Noble, il y a une quinzaine d'années. Enfin, voilà. Pour moi, exceptionnel. Et peut-être parce que j'étais dans le public et pas impliqué, alors je goûtais en plus en touriste, c'était encore plus agréable peut-être. Mais voilà, dans le baroque, Emmanuel qui donc sort...
Emmanuel Haïm,
qu'on a connu avec Nathalie au moment quand elle était continuiste chez William Christie, et avec qui nous avons partagé la naissance, on a un peu assisté... sur les fonts baptismaux, le concert d'Astrée. Enfin, Nathalie dit toujours qu'Emmanuel est une sœur pour elle, donc c'est une belle sœur pour moi. Et là encore, c'est un autre. Ça vient vraiment pour moi du clavier, de la construction interne de la musique chez elle, et d'un rapport. Après, c'est très particulier. Mon premier grand souvenir avec Emmanuel, c'est l'enregistrement de Hachi, Galatea et Polyphème qu'on a fait en 2002. J'ai toujours ce... Je ne peux pas dire en même temps, si tant est que de toute façon, le rapport d'un chef à ses interprètes est un rapport de séduction. En l'occurrence, c'était encore plus évident parce que j'avais envie d'aller vers elle. Mais toutes ces raisons se mélangent. Je veux dire, parce que je voyais une belle énergie, je voyais une belle femme, je voyais un discours. Enfin, c'est, voilà, il y a quelque chose. Voilà, là encore, ça se passe sur un autre mode. Dans, je prends mes parcours baroques. Enfin, je veux dire, John Eliot, là encore, énergie est un mot très fort pour John Eliot. Une énergie créatrice, une énergie qui a peut-être parfois à la limite destructive si vous n'arrivez pas à vous en protéger, mais qui vous emporte dans des endroits que vous atteignez assez rarement, même en tant que public. Quand on a fait, il y a 2 ans, la Symphonie Fantastique et les Lio, je suis resté abasourdi de cette fantastique. Et là encore, cette intégrité, cette recherche de timbre, cette recherche de la couleur juste, ce fait de « non, c'est pas parce que les harpes sont là, non, moi je vais les mettre devant parce que je veux qu'on entende comme ça, je m'en fous de savoir dans quel sens ça va, etc. » Autant d'engagement, autant d'audace ne peut que fasciner, moi qui en suis vraiment, mais loin d'être capable. Et ça m'émeut profondément aussi.
Avec ces quelques notes de la Symphonie Fantastique de Berlioz, sous la direction de John Eliot Gardiner, que l'on referme ce 3e numéro des Grands Entretiens de Laurent Naouri. La suite demain, bien sûr, à partir de 13h. Un grand merci à Gilles Blanchard qui a réalisé cette émission, avec Clémence Bonfils, Julien Douminc et Céline Tronouvelle. Sur francemusique.fr, vous trouvez toutes les infos, programmation musicale, réécoute en ligne et podcast.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.